23h25, donc, et nous accueillons maintenant Sarah au 39-21. Bonsoir Sarah.
Bonsoir Olivier.
Bonsoir. D'où nous appelez-vous Sarah ?
D'Alsace.
De, pardon ?
De Strasbourg.
De Strasbourg, d'accord. Quel âge avez-vous ?
50.
50 tourons. Je vous entends pas très bien, en fait. Vous êtes sur un haut-parleur.
Non, j'ai enlevé la radio, j'ai enlevé le haut-parleur.
Ah, mais là je vous entends beaucoup mieux. Vous avez baissé la radio, non ?
Non, j'ai bougé.
D'accord, là, ça va beaucoup mieux.
Et là, je bouge plus.
D'accord. De quoi allez-vous nous parler, Sarah ?
Eh bien, écoutez, je vais vous parler un petit peu de mon parcours personnel.
Oui.
En conclusion, ce sera pour dire... pour témoigner que quel que soit l'endroit où on se trouve, dans un tunnel sans lumière ou dans le fond d'un ravin, quand on est tout en bas, de toute façon, on ne peut que remonter. Et quoi qu'il arrive, quand on a la chance d'avoir un peu de volonté, quand on y croit, quand on s'accroche, quand on se dit la vie est belle, quand on regarde les gens sourire, on a envie de faire comme eux, parce que le sourire, c'est important. C'est un rayon de soleil, déjà, par rapport à un éclat de rire. Et vous dire qu'en quelques mots, je ne voudrais pas rentrer dans les détails parce que ce serait trop long à raconter. Mais déjà, je peux vous dire entre guillemets que je suis en train d'écrire ma bio. Et en fait, je vais la parler, ma bio, parce que je prends déjà le temps de lire mes livres et de les enregistrer pour les aveugles et les malvoyants.
Oui.
À titre bénévole. Et j'ai envie de partager ma vie parce que elle est particulière, mais elle est remplie d'aventures, bonnes ou mauvaises, peu importe, mais elle mérite d'être connue, et surtout, quand on est en bas, comme je le disais déjà tout à l'heure, on ne peut que remonter. Et en fait, quel que soit l'âge, on a autour de soi des gens qu'on rencontre sur notre route, qui sont là, on va dire, au bon moment, au bon endroit, et qui deviennent... pas forcément des amis, mais des béquilles de passage.
Oui.
Des béquilles de passage qui permettent justement de se reconstruire, comme disait Marie. Elle s'est reconstruite à sa manière, moi à la mienne. Chacun, en fait, a sa façon de se reconstruire, parce qu'on est tous égaux, mais on ne se ressemble pas forcément. Parce qu'on a tous des parcours de vie différents. Ça commence par la naissance. Alors, je vais vite me mettre un petit peu sur le chemin de mon arrivée sur Terre. Je n'étais pas désirée. J'ai été abandonnée à 7 ans, à 7 jours, parce que ma mère, elle ne pouvait pas me garder. Elle ne pouvait pas, si vous voulez, à l'époque, cumuler travail et vie privée. Donc forcément, je n'avais pas ma place dans sa vie. Et j'ai grandi donc dans le milieu religieux, avec des religieuses, forcément. Et là où je considère que ma mère a fait une erreur, c'est de me laisser en Allemagne. Elle était ici même, elle est allemande. Elle était, puisqu'elle n'est plus là. Elle m'a laissée en Allemagne. Et là, elle n'aurait pas dû, parce que j'ai vécu des choses en Allemagne que je n'aurais peut-être pas vécu en France. Les lois ne sont pas les mêmes. Et en fait, là où je faisais tâche, c'est que j'étais dans un milieu complètement arien, avec que des blonds aux yeux bleus. Et moi, j'étais d'origine méditerranéenne du côté père, donc beaucoup plus foncé, des cheveux châtain foncé, une peau très mate, et ça faisait tâche. Ça faisait un peu canard boiteux, comme on dit. Et les religieuses se sont servies de ça pour, non pas pour me faire évoluer correctement, mais pour m'enfoncer. Il y avait une forme de racisme, malheureusement, qui existait. De ce fait-là, on ne m'a jamais appelé par mon prénom. On m'appelait l'arabe. Donc ça, c'était déjà dur à encaisser. Puis j'ai pris très vite connaissance vers 4-5 ans que ma maman s'était promise de venir me chercher. Et de ce fait-là, j'ai squatté, on va dire, le couloir et la porte d'entrée pendant des jours, des semaines, des mois, des années, pensant qu'à chaque fois que la porte s'ouvrait ou que ça sonnait, c'était elle. Donc je l'ai attendue. Et puis, je me suis fait tirer par les cheveux, que j'avais longs jusqu'aux fesses. Mes cheveux, c'était vraiment l'arme qu'il fallait prendre en main pour me mettre soit au cachot, dans le sous-sol, dans la cave. Mes amis, c'était les souris. Mais aujourd'hui, Je dis pas ça pour qu'on me plaigne, hein, pas du tout. C'est simplement une expérience vécue et qui me permet quand même d'être dans le monde actuel, face à moi-même et face aux autres, avec une envie de communiquer tout le temps, constante. C'est-à-dire que tous les blocages que j'ai connus dans mon enfance se sont débloqués en grandissant. J'ai une adolescence chaotique, puisque à l'issue de ma vie en orphelinat, je suis passée en famille d'accueil. Alors j'en ai fait 5 en 5 ans, parce que insupportable. D'abord parce que hyperactive, et puis révoltée de cette femme qui avait promis qu'elle viendrait me chercher. Donc je cherchais ma mère dans toutes les femmes. Bien sûr, il fallait qu'elle soit plus âgée, et je me projetais dans toutes les femmes, mais je gardais que leur qualité. Et je construisais ma mère comme ça. Et en fait, c'est seulement à l'âge de 25 ans que j'ai décidé de la chercher. Je me suis retrouvée en France, en plus, à l'âge de 10 ans, parce que je suis née à Marseille. J'ai failli naître sur le bateau, d'ailleurs, qui revenait du Maroc. Et j'étais prématurée. Ma mère n'avait pas calculé ce coup-là. Je pense que je voulais voir la Terre plutôt que prévu et que j'avais certainement une mission à accomplir plutôt. Et je suis née 2 mois avant ma naissance prévue. Et de ce fait-là, née à Marseille, j'y suis pas restée, j'y suis juste née. J'ai d'ailleurs peu visité cette ville, mais je compte y aller prochainement pour peut-être reprendre quelques repères dans le quartier où je suis née. Et en fait, ma mère est tout de suite allée en Allemagne parce qu'elle pensait que sa maman allait me garder pendant qu'elle travaillait dur en brasserie, en restauration. Et sa maman, en fait, lui en a voulu énormément parce qu'elle a eu elle-même 10 enfants. Ma mère était cadette, elle a élevé les 8 autres. Et puis sa maman était entremetteuse, c'est-à-dire qu'elle avait prévu tous les maris de toutes ses filles. Et la seule qui ne s'était pas laissée faire, c'était ma mère. Je pense qu'elle devait être fatiguée de la vie qu'elle menait. Et puis elle n'avait pas envie d'un Allemand, je pense. Elle avait envie de voyager. Et c'est là qu'elle a connu mon père.
D'accord.
Voilà. Alors, juste une petite anecdote. Mon père était coiffeur. Et au jour d'aujourd'hui, malgré mes 50 ans, je ne sais toujours pas quoi faire de mes cheveux pour être coiffée correctement. Voilà, c'est le paradoxe.
Et vous avez toujours vos longs cheveux ?
Je l'ai dit, non, malheureusement non, parce que j'ai subi une chimio en 2014. Mais là, ils repoussent, je les ai bien sur les épaules maintenant.
Bon, très bien.
Voilà. Et puis, c'est bien, ça, la chimio, elle a réglé le problème, donc tant mieux. C'était le sein gauche. Voilà. Ensuite, où est-ce que j'en étais ? Oui, alors, donc, l'adolescence chaotique, hein, famille d'accueil, je dirais plutôt Cosette qu'autre chose. J'étais même tombée dans une famille bourgeoise où je mangeais par terre avec le chien parce qu'ils avaient exigé ça. Mais c'est quand même moi qui préparais à manger pour 6 tous les jours, midi et soir. Matin, midi et soir, je dirais même. Et j'avais pas le droit de manger avec eux parce que j'étais un rejeton, on va dire. Je faisais pas partie de la famille. Mais tout ça pour dire, non pas pour me plaindre, mais pour dire que ça m'a forgé mon caractère et que je suis une battante et je le resterai parce que si je le sais encore aujourd'hui, c'est que j'irai jusqu'au bout avec. Et en fait, ces gens-là qui m'ont démonté moralement, c'est vrai que sur le coup, c'était pas drôle de voir les enfants, ils étaient 4 notamment dans cette famille, gâtés, Noël, Pâques, même tous les jours de la semaine, les anniversaires, très fêtes, très joli tout ça. Moi, mon anniversaire, je ne l'avais jamais fêté. Donc, j'ai tellement l'habitude que même maintenant, je l'oublie. J'oublie de le fêter. Puis, ce n'est pas important de fêter la vieillesse, je trouve. En fait, je me rajeunis toujours. Je me dis, bon, bah, t'as 1 an de moins, là. Parce que dans ma tête, j'ai toujours un côté ado et un côté 30 ans, 40 ans. Je n'ai pas l'impression d'aller vers les 60. Voilà.
On est pas mal dans ce cas-là.
Oui, et en fait, ça a son charme quand même, même si ça dérange. Moi, je sais que là où je dérange, c'est parce que je dis toujours la vérité. Mais on parlait de mensonge tout à l'heure avec le mari de Marie. J'ai aussi connu ça, mais pas pour moi-même, puisque moi, j'ai toujours voulu vérité, paix et surtout égalité dans les cultures, dans les ethnies, etc. J'ai beaucoup voyagé quand j'ai donc eu ma majorité. Ça a commencé avec le permis de conduire que j'ai eu à 18 ans.
Tout de suite,
j'ai eu la chance. grâce à M. Giscard d'Estaing, qui a transformé les 21 ans en 18 ans. Et je faisais partie de cette année-là. Donc, c'était un excellent cru pour moi. J'avais déjà passé le code du premier coup. Et là, il ne me restait plus qu'à attendre la majorité pour conduire. Et le job que je faisais à ce moment-là, ben, c'était livreuse justement de beurre, d'œufs et de fromage à toute la restauration du secteur, en frontalier avec l'Allemagne, d'où je venais. Et c'est là que je me suis rendu compte que toute ma vie, finalement, si je fais le bilan, j'ai toujours eu des boulots assez intéressants, passionnants même, avec une évolution à chaque fois. Bon, je n'ai pas fait beaucoup d'études puisque je suis arrivée en France à l'âge de 10 ans et j'ai commencé par apprendre avec les CP le français. Et j'estime aujourd'hui que je suis aussi forte que quelqu'un qui a le bac. Même si moi, je suis restée avec mon bac à sable. Mais j'ai fait une évaluation il n'y a pas longtemps et j'ai quand même un bac plus 2. En ayant lu beaucoup, en m'étant intéressée à tout. Et d'ailleurs, je condamnerais la personne qui a écrit que la curiosité est un vilain défaut. Moi, je dis que c'est une super qualité parce que c'est grâce à la curiosité que j'ai appris mille et une choses et que j'apprends encore mille et une choses. Allô ?
Oui, je suis là, je vous écoute. Vous avez, je vous écoute religieusement, moi.
Ah bon, je suis là ?
Alors, vous me disiez que... Vous me disiez avoir connu, vous m'avez parlé de Ravin tout à l'heure.
Oui, parce que, j'aime pas le mot viol, mais malheureusement, je l'ai subi. Alors, ça a commencé à l'orphelinat, puisque c'était un orphelinat catholique, donc je suis victime de l'Église. Ça a commencé à 4 ans. Avant, je ne sais pas, je ne m'en souviens pas, mais de 4 ans jusqu'à ce que je vienne en France, ça a été le cas. On était plusieurs à être cherchés en pleine nuit, avec la complicité des religieuses, qui étaient peut-être maîtresses ou pas du curé, ou des curés plutôt, parce qu'il y en avait plusieurs, qui venaient le samedi après-midi préparer la messe pour le lendemain, qui dînaient avec la mère supérieure et qui dormaient ensuite dans leur chambre. Mais cette chambre, c'était un hôtel de passe. Avec nous, gamines, on était quand même dans un orphelinat où on était placé de tout petit jusqu'à la majorité. Donc, il y a eu tous les âges. Et je pense que les jeunes... Enfin, voilà, la pédophilie a eu raison de ces personnages. Et en fait, récemment, j'ai pris conscience qu'il fallait que j'agisse aussi parmi les témoignages. Je voulais me taire. Je me suis tue longtemps, très longtemps, parce qu'on a honte d'en parler. Parce qu'on est gêné, parce qu'on se dit elle fabule, elle invente. Non. Là, quand j'ai pris connaissance du rapport au mois d'octobre du président de la fondation, monsieur, comment s'appelle-t-il je ne sais plus son nom.
Il y a un nom
d'église d'ailleurs, je trouve. J'ai pris connaissance donc, de ce dossier et pour savoir qu'il y a donc 3000 cas recensés, je pense qu'il y en a plus. Parce que beaucoup sont décédés et sont partis avec leurs secrets. Mais là où j'ai été outrée, je ne sais plus si c'est Europe ou Inter, parce que j'écoute les trois RTL, il y a un journaliste qui s'est quand même permis de dire oh, ça coûtera moins cher à l'Église si on les indemnise, les cas qui restent, puisque la plupart sont morts. Alors, il a dit ça d'un air ironique. J'étais assez bouleversée, parce qu'il avait l'air de prendre ça à la légère. Et puis, comme ça date des années 50, 60, 70, je crois que c'est un jeune journaliste parce que s'il y avait eu mon âge, peut-être qu'il aurait réagi autrement.
Vous évoquez les 3000 cas dans l'orphelinat où vous étiez.
Non, les 3000 cas, c'est dans le rapport français.
Français, d'accord.
Mais il y en a eu dans toute l'Europe, même dans le monde entier.
Oui, dans le monde entier.
On le sait que c'est simplement. Je sais qu'il y en a eu aussi en Allemagne.
Partout.
Non, mais si vous voulez, mon cas de figure est un peu particulier dans la mesure où moi, c'est arrivé en Allemagne. Alors, est-ce que je porte plainte en France ou est-ce que je porte plainte en Allemagne? Et j'ai eu la réponse il y a très peu de temps, il y a la semaine dernière. Figurez-vous que j'avais pris contact avec la dame qui s'appelle Sœur Suzanne à Strasbourg, qui est chargée de mission de prendre acte de tous les témoignages et de les écouter, de nous accompagner pour aller... porter plainte, etc. Et cette dame est beaucoup absente, c'est une Anglaise qui se déplace énormément, Donc on s'est un peu perdu de vue. On a eu un premier contact, un deuxième, mais le rendez-vous qu'on avait eu était raté. Donc je pense que c'était peut-être un empêchement, parce que parfois on a des empêchements, on se demande pourquoi. Et en fait, ils sont écrits parfois, je trouve, par rapport à ce que moi j'ai vécu. Il y a des empêchements qui sont écrits parce que c'est peut-être pas le chemin qu'on doit prendre. Ça s'est produit aussi dans d'autres cas de figure, dans le milieu professionnel ou ailleurs. J'ai connu aussi des boss, des patrons, qui, un peu comme MeToo, se gênaient pas de se servir avec ou sans consentement, bien sûr. Et là aussi, j'ai toujours très mal réagi et j'étais révoltée, je ne me laissais pas faire et j'étais grillée sur le plan boulot, quoi. J'ai perdu des emplois à cause de ça. Mais ce n'est pas grave, parce que je suis restée digne et c'était ça mon but. Mon but, c'était de rester moi-même et peut-être de souffrir en silence, parce que sourire devant, souffrir dedans, je connais. Mais j'ai toujours défendu les causes et mes convictions. Mes convictions, c'était la justice, la justesse, la loyauté,
la vérité. La paix.
Surtout la paix. Je souffre énormément des guerres qui, en plus, sont toujours en relation soit avec la politique, mais beaucoup, beaucoup avec la religion. Et là aussi, si vous voulez, c'est étonnant parce que j'ai grandi dans un milieu catholique. Ensuite, je me suis dirigée vers le protestantisme parce que ils sont beaucoup plus sociaux. J'ai travaillé dans un hôpital qui était géré par des protestants.
Surtout en Allemagne.
Et je me tourne encore vers
là où je me sens le
plus à l'aise, c'est dans la philosophie du Dalai Lama. En fait, les religions, moi, personnellement, si on me demandait mon avis dans une interview quelconque, je dirais le catholique, c'est l'église de l'homme. Parce que c'est eux qui ont décidé que les curés ne se marieraient pas et n'auraient pas d'enfants, alors que chez les pasteurs, on verra peut-être rarement ou pas du tout même, les pédophiles. Ils sont mariés, ils ont des enfants eux-mêmes. Je pense qu'ils ont d'autres chats à fouetter que de faire encore des extras avec des gamins.
Sarah, on va être obligé d'accélérer un petit peu, pardonnez-moi, parce que vous avez beaucoup de choses à dire. Recentrons-nous sur vous, en fait, sur votre vie, en fait. Vous m'avez dit tout à l'heure, il faut toujours croire, il faut toujours... se dire qu'on peut remonter.
Ce que je voulais dire, c'est que j'étais athée quelque part, mais athée, ça ne veut rien dire en fait, puisque je crois quand même en cette puissance supérieure. Pour moi, Dieu, ce n'est pas un monsieur barbu avec une robe blanche. C'est une puissance qui doit être reliée aux différentes planètes dans l'espace qui est tellement universel, tellement grandiose. On est des fourmis par rapport à tout cet univers qui est au-dessus de nous. Ça n'a rien à voir avec les extraterrestres. C'est cette puissance qui nous... Je ne dis pas qu'il nous dirige, mais qui nous accompagne dans notre vie. Et pour ma part, je pense qu'on vient au monde, parce que souvent on se pose cette question, pourquoi je suis sur cette terre? Surtout quand on n'a pas le moral, quand on a le blues, on se dit, mais qu'est-ce que je fous là? Je ne suis pas à ma place. J'en ai marre de vivre toutes ces galères. Je vais me flinguer. Non, on est là pour une mission. Et il faut qu'on l'accomplisse jusqu'au bout. Ça, c'est ma philosophie. Je ne dis pas que les auditeurs et vous-même, vous devez la partager, mais c'est mon opinion. Et sans prétention aucune, je pense que je suis proche de la vérité.
Est-ce que vous avez entendu parler des vieilles âmes?
Des
vieilles âmes?
Non.
Bon.
Eh bien, à l'occasion, quand vous aurez un petit peu de temps, parce que vous êtes quand même débordé de travail, vous regarderez sur Google « vieille âme ».
Vieille
âme. Et « vieille âme », ça veut dire que vous faites partie des gens qui viennent... sur Terre, qui sont là pour la presque dernière fois. Et la dernière fois,
combien sur cette Terre,
parce qu'on a plusieurs vies, ça je pense que c'est reconnu et validé, mais quand on vient pour la dernière fois, on doit souffrir énormément parce que
je crois que c'est une mission,
justement comme je le disais au début. Souffrir énormément, c'est pas vouloir se faire plaindre ou gémir ou se plaindre, mais c'est terminer sa mission en se disant « après, ça sera mieux ». Parce que moi, je reste persuadée qu'un jour, les âmes seront posées sur Terre et que l'amour prendra le dessus. L'amour dans toute sa splendeur. Je ne parle pas de l'amour d'un couple, je parle de l'amour en général. l'amour qu'on peut porter au prochain, l'amour des amis, l'amour d'une mère qui m'a manqué.
Sarah, je suis désolé parce que vous partez, vous avez beaucoup de choses à dire, je le sens, et ça sera bon pour votre podcast. Mais j'ai vraiment besoin que vous me parliez parce que pas mal de gens se demandent ce qui vous est arrivé au final par rapport à votre introduction, en fait.
D'accord.
Et si on nous recentrait sur vous.
J'étais sur la victime de l'Église. Ensuite, le meilleur ami d'une de mes familles d'accueil a réussi à me isoler également. J'avais 17 ans. Ensuite, je ne savais toujours pas qu'un homme et une femme pouvaient s'accoupler. On m'avait jamais appris la sexualité et je savais pas encore comment on faisait les enfants. Donc 17 ans. Et le dernier drame que j'ai vécu, c'était dans un parking en sous-sol, une voiture, une BMW, avec 4 occupants qui sortent de voiture au moment où je rentre dans le parking et bien sûr qui réussissent parce que pas de passant à ce moment-là, personne.
Où est-ce que ça s'est passé, ça ?
Dans un parking à Paris.
À Paris ?
En sous-sol.
D'accord. Oui.
Bon, c'était des touristes, ils venaient du sud, justement dans le 13. Et je n'ai pas pu relever leur numéro, mais le 13 m'avait marqué. Et bon, ils n'ont pas eu le temps, tous les quatre, de s'occuper de moi, mais deux ont réussi. Parce qu'après, il y a eu des garçons qui sont venus récupérer leur voiture et ça les a fait fuir.
Oui.
Mais j'étais en compote parce que j'ai été frappée d'abord, scotchée au niveau de la bouche pour que je ne crie pas. Tout était déjà prêt. En fait, c'était prémédité, cette histoire. Je pense qu'ils avaient décidé de se faire une femme et
ouais,
c'était moi.
Ouais, ouais.
Voilà. Tout ça pour dire que j'étais dépressive. J'ai fait un burn-out aussi parce que j'avais associé ma chimio avec mon travail qui me prenait plus de 50 heures par semaine. Mais j'étais tellement passionnée dans mon boulot que voilà, je me suis dit je vais y arriver, je me croyais un peu plus forte que les autres et en fait le corps quand il a décidé qu'il en avait marre, eh ben il vous prévient pas. Donc j'étais dans un burn-out et dans un espèce de coma pendant 2 mois et lorsque je me suis réveillée, ben je savais plus du tout où j'étais, j'avais l'impression que je m'étais endormie depuis la veille et quand j'ai pris conscience que c'était 2 mois, 65 jours exactement, j'ai réalisé que j'avais fait une connerie, que en fait j'aurais dû lever le pied au niveau du boulot, faire ma chimio tranquille, et puis d'ailleurs j'ai dû faire un peu plus de chimio à cause de ça, puisque c'était un peu raté au début, on va dire. Mais et puis j'ai connu aussi la prison, mais pas parce que j'avais fait une connerie, parce que tout simplement j'étais avec un homme d'affaires pendant quelques années. Je suis pas mariée avec,
mais on n'a pas vécu non plus ensemble, mais on s'est côtoyé pendant une dizaine d'années. Et cet homme d'affaires, malheureusement, avait détourné beaucoup d'argent avec le fisc. Et puis un jour, on est venu chez moi, pensant qu'il était là. Et puis, il n'était pas là ce soir-là. Mais on m'a embarqué, on a fouillé mon appart, on l'a mis dans tous les sens. On a pris tout ce qui était papier. Il n'y avait pas d'ordi à l'époque, ni de téléphone. On a pris tous mes classeurs, mes archives et tout.
Et vous avez fait combien d'années de prison ?
Pas d'années, puisqu'ils l'ont chopé 2 mois après. Mais j'avais une avocate qui était en train de produire le nécessaire pour prouver que je n'étais pas impliquée, puisque j'avais moi-même mon propre boulot, ma propre vie. Nous, ce qu'on partageait, c'était des loisirs, c'est tout.
Il avait sa vie,
j'avais la mienne professionnelle. Mmh. C'était un monsieur qui travaillait dans le milieu de la nuit, donc avec beaucoup d'argent en espèces. Et c'est ce qui lui a permis d'ailleurs de détourner pas mal de valises, on va dire. Mais ça, je le savais, mais c'était pas. Je veux dire, ça ne me concernait pas, c'était sa vie. Fallait qu'il l'assume. Je n'allais pas balancer mon partenaire au fisc en disant « Bon, bah, écoutez, faites un tour chez ce monsieur. Tous les week-ends, il a des valises pleines. » Non. J'étais quand même amoureuse et voilà. C'est ce que j'ai trouvé extraordinaire chez cet homme, c'est sa simplicité. Il n'avait pas la grosse tête. Quand il se baladait dans la rue, on n'aurait jamais cru qu'il brassait autant d'argent. Donc, c'était quelqu'un de très modeste et très, très simple et très proche de moi, parce que vous pensez bien qu'avec le passé que j'avais, moi, ce qu'il me fallait avant tout, avant même le sexe, c'était l'affection et la tendresse.
Mmh.
Voilà. Et
vous la trouviez avec lui, en tout cas.
Pardon ?
Vous la trouviez avec lui, en tout cas.
Je la trouvais avec lui, oui, même si c'était que ponctuel, puisqu'on avait tous les deux des jobs qui nous prenaient énormément de temps. Mais de temps en temps, on se voulait des petits week-ends en semaine, un mardi ou un mercredi, un jeudi. Voilà, mais pas jamais le week-end, parce que moi, j'étais dans l'événementiel, donc c'est le week-end que ça cartonne. Et lui était en milieu nocturne, donc pareil, c'était le week-end qui était le plus prenant. Nos week-ends, c'était de préférence le mardi, parce qu'il nous fallait le lundi pour récupérer du week-end. Donc le mardi, mercredi ou le mercredi, jeudi. Mais malgré tout, il emmenait quand même sa compta. Et il faisait un spa, un sauna à MAM, mais rapidement, parce qu'il était toujours dans ses chiffres. C'était une vraie calculette ambulante. Il était expert comptable de base, et donc, comme il était assez impliqué dans tout ce qui est patrimoine et compagnie, c'est vrai qu'il a réussi de ce côté-là.
Il nous reste 10 minutes, Sarah. Pour.
Il a raté beaucoup de choses. Il a raté le côté famille. Parce que je pense que j'aurais été prête à refaire un enfant. Même si j'ai perdu une fille, puisque j'étais enceinte d'un garçon à 22 ans, pour me prouver que je n'allais pas, comme ma mère, l'abandonner. Et c'était des jumeaux, justement, mais la petite n'a pas survécu. Par contre, mon fils est en pleine forme. Je l'ai allaité pendant 9 mois et j'en suis fière comme un coq. C'est un homme qui a 45 ans maintenant et qui est solide comme un roc, mais qui a basculé aussi dans les affaires. Et il m'appelle Mère Teresa. On est opposés. On n'a pas des relations très saines parce que justement on est opposés. Je fais beaucoup de social, surtout maintenant, encore plus qu'avant. Je donne mon temps au Resto du Cœur, à la Croix-Rouge.
Mmh. Alors comme il nous reste très peu de temps, en fait, je sais que vous avez connu la rue. J'aimerais savoir comment vous avez connu la rue, pourquoi.
Alors là aussi, c'est dur à porter. Alors 25 ans d'amitié avec une famille, dont je suis la marraine d'un enfant, qui a 23 ans maintenant. Et puis c'est le Covid qui nous a séparés, figurez-vous. Il y a eu, on en parlait dans la presse aussi, des déchirements de famille, parce qu'il y avait les vaccins, et les pros et les anti-vaccins. Et elle l'était devenue, cette nana, et elle s'est complètement retournée comme une crêpe. Elle a même adhéré à un club de complotistes. Donc on était opposés l'une à l'autre, et puis un jour je ne suis pas pu m'empêcher de lui dire ce que je pensais. Et puis le soir même, dans la journée, je suis partie. Le soir même, je me suis dit, bon, allez, on va faire la paix. Comme c'était déjà arrivé, des prises de bec, il y en a partout, même dans les colocations. Et en fait, les serrures étaient changées et puis j'étais dehors. Donc, j'avais ma voiture qui m'a dépannée au mois d'octobre. C'est récent, hein, 21. Ma voiture, je l'ai tuée avec la batterie, le chauffage. Et après, j'étais dans la rue. Mais comme je dors peu, j'ai de la chance. Et je marchais. Je me mettais pas dans un coin, j'avais trop peur qu'on vienne une fois de plus s'occuper de moi, si vous voyez ce que je veux dire.
Mmh. À Paris.
Parce que beaucoup de SDF sont torchés, et puis une femme, ça se repère, et puis voilà.
À Paris, ça s'est passé?
Non, à Strasbourg.
À Strasbourg, d'accord.
J'avais appris à faire des micro-siestes dans la journée. C'est ce qui me permettait de tenir la nuit et de revivre, entre guillemets, normalement, comme tout le monde. Du jour qui se levait jusqu'au jour qui se couchait. J'étais restée quand même, comme j'avais beaucoup d'affaires dans ma voiture, puisque j'étais au point de déménager dans le sud de la France, ça s'est fait plutôt que prévu, on va dire, mais je ne suis pas encore dans le sud, je vais y aller dans pas longtemps. Il a fallu que je me reconstruise. Mais là aussi, j'ai eu la chance de tomber sur des personnes au bon moment.
Vous m'avez parlé justement de ces mains tendues. Donc, quand vous êtes dans la rue...
Eh bien, écoutez, ça ne vient pas tout seul non plus. Moi, j'ai très vite prendre, par exemple, le petit déjeuner chez Caritas le matin à 9h, ou de 9 à 10, on vous distribue le café, la tartine, avec le beurre et la confiture. Et puis, très vite, je me suis sentie l'envie d'aider aussi, d'être bénévole. Et effectivement, ils avaient besoin de gens qui faisaient surtout les courriers administratifs dans différentes langues. Parce que Strasbourg, c'est cosmopolite, comme beaucoup de villes, beaucoup plus qu'à la campagne. Et donc, j'ai très vite été confrontée à des traducteurs qui traduisaient très bien, par exemple, des pays de l'Est, mais qui connaissaient pas, qui n'avaient pas la maîtrise du courrier en français ou en allemand. Et donc là, je suis intervenue avec mes connaissances à moi, puisque je parle 5 langues avec le dialecte alsacien, français, allemand, espagnol, anglais, pour avoir vécu dans chaque pays. C'est pour ça que je vous ai dit que je suis pas mal bourlinguée. Et le fait de vivre dans le pays permet d'apprendre beaucoup plus vite la langue et ça permet aussi de connaître un petit peu la façon de vivre de chacun, les habitudes, les us et coutumes, en fait. Et je me sens bien partout et en même temps mal partout parce que cet amour dont je me manque, je suis seule quand même depuis pas mal d'années et ben là, je l'ai retrouvé il n'y a pas longtemps avec un homme qui me semble être vraiment le plus équilibré de tout ce que j'ai pu rencontrer sur mon chemin. Et j'espère que Dieu et cette puissance m'entend pour que je puisse peut-être enfin me poser et vivre quelque chose que d'autres ont vécu depuis des années. Voilà, l'amour. Et j'y crois encore plus maintenant.
Vous êtes aujourd'hui, que faites-vous ? Vous en êtes où aujourd'hui ?
Alors aujourd'hui, je continue à être active, mais j'ai levé le pied côté événementiel. Par contre, j'ai bifurqué totalement dans le social. Et mon projet, c'est de continuer là-dedans. Je voulais d'abord partir à l'étranger, mais je crois qu'il y a suffisamment à faire ici.
Oui, il y a beaucoup à faire ici, vous avez raison.
Il y a énormément à faire, et encore plus maintenant avec M. Poutine qui a décidé de massacrer les Ukrainiens. Donc, mais il y a d'autres pays, hein, je veux dire, Strasbourg représente tous les pays du monde. Comme Paris, comme Lyon, comme Marseille, comme l'Italie, comme l'Espagne, comme tous les pays d'Europe. Mais la France, pour les étrangers, n'est plus le paradis que c'était dans les années 60, 70, 80, 90. Et ça, les familles qui sont venues dans les années 60, c'était quand même proche de l'après-guerre, ont permis de reconstruire toutes nos villes et toutes nos campagnes. Maintenant, c'est différent, les temps ont changé. Il y a Internet, il y a le téléphone portable, il y a des outils qu'on n'avait pas à l'époque, donc et puis on se consacrait plus à la communication et on était plus proche des gens parce que il y avait plus d'échanges, plus de partage. Mais moi, je fais partie de ces gens qui, quand ils mangent, préparent toujours un couvert de plus pour la personne qui va passer, un peu comme chez les agriculteurs, vous voyez.
Oui.
Le bol de soupe pour que ça se passe.
Bon, en tout cas, vous allez mieux, vous allez beaucoup mieux.
Ah oui. Mais ça, je vous dis, j'ai été plusieurs fois au fond du trou. Hein. Dépression, je connais, burn-out, je connais. Même prison, je ne pensais pas avoir besoin de passer par la case prison. Je le connaissais sur le Monopoly, mais pas en réalité.
Mais finalement...
Quand je jouais au Monopoly avec mon fils, qui gagnait tout le temps, d'ailleurs, ça m'agaçait. Et en fait, maintenant, il fait son Monopoly en réalité.
Mais finalement, aujourd'hui, on sent... voilà, il y a quelque chose dans votre téléphone qui siffle... Aujourd'hui, on voit que toutes les épreuves vous ont forgé et que vous êtes plutôt forte aujourd'hui, Sarah. Donc, c'est plutôt pas mal.
Oui, tout à fait. Oui, et je suis forte et ma force me permet d'aider les autres. Et aider les autres, moi, ça me nourrit encore plus. Je vais peut-être clore avec le sourire. J'avais démarré avec le sourire. Quand on envoie un sourire, on le reçoit en échange. Quand on fait la tête, bon, c'est normal, on a des problèmes, on ne sait parfois pas du tout comment faire pour s'en sortir. Donc, on n'a pas envie de sourire. Mais le sourire, en quelques mots, c'est quelque chose qui ne coûte pas grand-chose, mais qui peut apporter une richesse phénoménale. Il existe une carte postale, je vous l'enverrai. Je vous l'enverrai à Europe, parce que c'est trop long maintenant, puisqu'il ne reste plus de temps. Je vous l'enverrai et je l'enverrai sur Facebook et sur Insta.
Avec grand plaisir. En tout cas, ça a été un plaisir d'échanger avec vous, ma chère Sarah. Je vous souhaite plein de bonnes choses, hein, puisque, comme vous l'avez dit tout à l'heure, vous avez un an en moins chaque année. Donc, c'est parti pour une longue vie. On vous embrasse bien fort et merci pour votre intervention sur l'antenne d'Europe 1 ce soir. Et passez une bonne nuit. Au revoir.
La libre antenne d'Europe 1. Pour dialoguer avec Olivier Delacroix, envoyez le mot « nuit », suivi de votre message au 739 21.
75 centimes plus coût du SMS.